Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral.
À l'heure où Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, deux chefs d'État, sont inculpés par la CPI, quelle est l'histoire de cet idéal de justice internationale né à Nuremberg il y a 80 ans ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le juriste et écrivain Philippe Sands.
Épisode 6, 2025, la loi du plus fort.
C'est un jour noir pour la CPI, qui a perdu toute légitimité à exister et à agir. Gideon Saar, ministre israélien des Affaires étrangères, en 2024. On était précédemment avec Philippe Sands sur un épisode sur la CPI où on disait le double standard, que c'était compliqué. Quand vous avez un ministre israélien des Affaires étrangères qui considère que c'est un jour noir pour la CPI, que ce jour noir, c'est le jour où la CPI décide de poursuivre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est-ce que vous dites que c'est un jour noir pour la CPI ou au contraire, un jour où la CPI prouve son utilité ?
C'est un jour complexe. Je peux un peu expliquer ce qui s'est passé avec ces histoires.
Ouais. Alors là, pour le coup, dans cet épisode, on a besoin de pédagogie, comprendre où on en est.
Je vous donne ma version, comment je comprends les choses. Ouais. Février 2022, la Russie part en guerre pour l'occupation totale de l'Ukraine.
Crime d'agression.
Trois jours plus tard, le Financial Times me demande d'écrire une tribune sur l'Ukraine et le droit international. Et je propose dans cette tribune, qui est publiée le 27 février 2022, la création d'un nouveau tribunal pénal sur crime d'agression commis en Ukraine. Et trois mois plus tard, les négociations commencent pour créer le premier tribunal sur crime d'agression depuis Nuremberg. Mmh. Le procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, est contre cette idée. Pas pour des raisons de principe, mais pour des raisons de territoire. Il ne veut pas qu'il y ait un nouveau tribunal qui soit créé. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, c'est ma supposition, je ne sais pas. Mmh. C'est qu'il s'est dit, pour éviter de la création d'un nouveau tribunal, je vais voir si je peux inculper M. Poutine. Pour moi, ce n'était pas une bonne idée. C'était pour la déportation des enfants, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et il le fait, début 2023. Arrive six mois plus tard, les événements du 7 octobre en Israël. La tuerie de 1200 personnes et les conséquences pour le Gaza qu'on voit de nos jours sur les écrans. Et M. Khan a un problème. Il y a une pression pour agir. Quelle base pour agir ? C'est que la Palestine est devenue membre de la Cour pénale internationale. Et donc, ils ont compétence pour les crimes commis par les Palestiniens et sur le territoire de la Palestine. Et ça comprend Gaza. Mais le problème pour la Cour pénale internationale, c'est qu'ayant inculpé un chef d'État pour la Russie, qui n'est pas membre de la Cour pénale internationale, M. Khan doit agir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il annonce
l'inculpation de Benjamin Netanyahou,
de trois membres de Hamas, trois leaders de Hamas, et au même moment, deux leaders d'Israël. M. Gallant, ministre de la Défense, et M. Netanyahou, premier ministre d'Israël. Et là, on voit les conséquences, mais on voit aussi les doubles standards. Qu'est-ce que je veux dire par les doubles standards ? On voit que les États-Unis annoncent qu'ils sont très contents avec l'inculpation de M. Poutine.
Je précise que c'était l'Amérique de Biden encore.
C'était l'Amérique de Biden. Mmh. Le Sénat des États-Unis a voté 100 votes à zéro contre pour féliciter l'inculpation et les actions de la Cour pénale internationale en ce qui concerne la Russie, qui n'est pas membre de la Cour pénale internationale. C'était vraiment bizarre quand même.
Et pour Netanyahou,
c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Catastrophe. Sanctions contre les juges, les procureurs, mais pas de sanctions pour ceux qui ont travaillé sur l'inculpation de Poutine. C'est quand même un double standard, là. Non ?
Alors, sortons du double standard et revenons sur le standard de la justice. Est-ce que la CPI a eu tort, d'un point de vue juridique, de poursuivre Poutine puis Netanyahou pour crime de guerre, pour crime d'agression, pour crime contre l'humanité ? On évoquera la notion de génocide dans un instant. Est-ce que c'était une faute ? Et je parle aux juristes ici.
En ce qui concerne M. Poutine, la Cour pénale internationale, pour des raisons techniques, n'a pas compétence sur le crime d'agression. Et donc, ils ont inculpé M. Poutine pour d'autres crimes, pour la déportation des enfants. Et là, je ne connais pas assez les faits pour savoir est-ce que M. Poutine a eu un rôle direct ou assez indirect dans la déportation des enfants. Le procureur dit oui, et je suppose donc qu'il a certaines preuves. Trois juges ont dit oui, on peut procéder à un acte d'arrestation contre M. Poutine. Alors je suppose qu'il y avait, prima facie, une base. En ce qui concerne M. Netanyahou, là, ça me paraît très clair. Il y a des crimes qui se passent en ce moment à Gaza, surtout avec la question de nourriture et la famine.
Et de déplacement de population.
Déplacement de la population, c'est une base très claire. Ce qui est très intéressant, c'est que la Cour pénale internationale a inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pas génocide. Par contre, il y a un procès parallèle devant un autre Cour internationale, la Cour internationale de justice, c'est pas la même chose. Ça fait des procès entre États. L'Afrique du Sud a ouvert un procès contre l'Israël sur la base de la Convention de 1948 dont on a parlé,
sur
le génocide, argumenté que l'Israël est en train de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Et donc, on a ces deux procédures différentes. Cour pénale internationale, crime de guerre, crime contre l'humanité, pour l'instant. Cour internationale de justice, crime de génocide.
Et en même temps, pendant ce temps-là, l'un comme l'autre peuvent voyager dans des pays pas forcément ennemis du droit international, comme les États-Unis, par exemple, pour Netanyahou. Vladimir Poutine s'est beaucoup déplacé en Chine récemment, par exemple. Est-ce que tout cela ne dit pas la faiblesse du droit international face, je ne sais pas si je dois dire à la force ou à la politique, ou en tout cas qu'il faut mieux gagner les guerres plutôt que de les perdre?
Je pense qu'on a compris que c'est un système fragile.
Oui.
En fait, c'est très récent, 45 c'est récent. C'était, on revient sur notre discussion dans le premier épisode, 45 c'était un moment révolutionnaire. C'était la première fois dans l'histoire des êtres humains que le droit pénal international peut s'appliquer aux leaders ou aux ex-leaders des pays. C'est tout nouveau. Et je me souviens, quand j'étais jeune chercheur à l'université de Cambridge, c'était aux années 80, j'avais un collègue très connu, un grand professeur de l'histoire du droit anglais, Sir John Baker. Et il me posait la question, tu travailles sur quoi, Philippe? Je lui ai raconté sur ce que je travaillais, j'avais 25 ans, et il réfléchissait. Il disait, ah oui, on avait un problème similaire en droit anglais en 1472 et on a mis 275 ans à s'en sortir. Et je pense que c'est dans ce contexte, un système créé qui change tout en 1945 ne va pas aboutir à être complet et parfait en 2025. C'est un jeu à long terme et on est tout au début. On est dans les Moyen-Âge, on commence avec ce système, ça sera un pas en avant, un pas à côté, un pas en arrière, même deux pas en arrière. Pour l'instant, je pense que c'est comme ça. Mais c'est clair que nous vivons de nos jours un moment très difficile pour le droit pénal international. Il y a des attaques de partout. Avant, c'était la Russie et la Chine, pour les Ouïghours, par exemple.
Oui.
Maintenant, c'est aussi les États-Unis. C'est clair. Sous l'administration de M. Trump, il y a trois grandes puissances qui sont contre ce système et contre la Cour pénale internationale et l'idée de la justice, même pour les leaders des pays puissants. C'est un moment difficile.
J'aimerais, et on ne peut pas ne pas s'arrêter sur ce mot de génocide. C'est un terme qui est employé énormément au sujet d'Israël aujourd'hui. Les juristes sont divisés, si j'ai bien compris. Les militants de la cause palestinienne l'avancent comme un étendard. Est-ce que, selon vous, c'est un mot, une notion dont on a raconté l'histoire dans le deuxième épisode de cette série, qui empêche de réfléchir ou qui permet, au contraire, de dire la réalité de ce qui se passe?
Regardez, il y a un rapport qui vient d'être publié par les Nations Unies qui est important et qui, par conclusion, arrive à l'idée que ce qui se passe à Gaza, de nos jours, peut être caractérisé comme génocide. La question sera décidée par la Cour internationale de justice dans l'affaire qui a été prise par l'Afrique du Sud contre l'Israël. Moi, je fais un peu attention. Je pense que si les gens veulent dire que c'est un génocide, ils ont le droit de le dire. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais je fais un peu attention. Pourquoi est-ce que je fais attention? Je fais attention parce que je suis conseil dans une autre affaire qui va venir avant l'affaire de l'Afrique du Sud contre l'Israël. C'est l'affaire qui a été apportée à la Cour internationale de justice par la Gambie contre le Myanmar, le Birmanie, pour les tueries et les attaques contre les Rohingyas.
C'est une minorité musulmane.
Et le procès contre le Birmanie va ouvrir en janvier. La Cour va donner son arrêt peut-être vers juin-juillet 2026. Et là, on va voir l'interprétation et l'application de la Convention de 48 sur le terme génocide. Et surtout, l'aspect le plus important, comment est-ce qu'on prouve l'intention de détruire? Pour la Birmanie, comme pour l'Israël, tout va tourner sur l'interprétation et l'application de ce terme intention. Est-ce que ces pays ont l'intention de détruire une population partiellement ou totalement? Ou est-ce que, comme ils vont argumenter, ils ont l'intention de autodéfense, se protéger contre le terrorisme, les attaques, etc., etc. On ne sait pas comment les juges vont statuer sur cette question. Ce qui est clair pour moi, c'est ceci. Le 7 octobre, il y avait des crimes internationaux, que ça soit caractérisé comme crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une atrocité. Il doit y avoir une responsabilité pour tout ça. Et c'est exactement la même chose pour ce qui se passe de nos jours à Gaza. Il y a des crimes, c'est évident. Pour moi, il y a moins d'importance que ça soit caractérisé comme crime de guerre ou crime contre l'humanité ou génocide. Pour les gens qui vivent ce qui se passe en ce moment, c'est épouvantable. Ça doit arrêter et ceux qui sont responsables doivent être jugés. Mais on arrive au moment où la caractérisation de ces crimes va avoir lieu devant ou la Cour pénale internationale ou la Cour internationale de justice. Je voudrais revenir à Lemkin. Pour ce mot génocide inventé par Raphaël Lemkin, juriste polonais, je pense que si Lemkin était avec nous aujourd'hui, il dirait, avec son interprétation du mot qu'il a inventé, génocide, avec son approche qu'il a pris où le barreau était beaucoup plus bas, il dirait que ce qui s'est passé le 7 octobre était un génocide et il dirait sûrement que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est un génocide. Et les juges qui vont statuer sur l'interprétation de la Convention de 48, on ne sait pas encore quelle direction ils vont prendre sur cette question absolument centrale. Comment est-ce qu'on prouve l'intention? Et quelle est l'intention dans ces deux cas?
Le fantôme de Raphaël Lemkin aura, je crois, flotté dans ce studio pendant toute notre conversation. Merci beaucoup, Philippe Sands, de nous avoir éclairé. On a bien compris en vous écoutant que la justice prend du temps à se décider, à s'écrire, à se penser, qu'elle prend aussi du temps à s'imposer aux États, mais que, quel que soit le temps, elle l'emporte au final. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui vous anime, vous, professeur, vous, juriste, vous, écrivain. Je cite votre dernier livre, 38 rues de Londres, de l'impunité, Pinochet et le nazi de Patagonie, qui est sorti à la rentrée littéraire chez Albin Michel. Merci beaucoup, Philippe Sands, de m'avoir accompagné.
Un grand merci, Thomas, à vous.
Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral, un podcast original de France Inter.